nous accueillons pour la première fois Claire. Salut Claire.
Bonjour.
Alors pour ta première chronique, tu vas nous parler du phénomène de l'éco-anxiété.
Oui, tu vas nous parler du coup de l'éco-anxiété qui s'est imposée depuis quelques années et surtout depuis quelques mois dans l'espace médiatique et public. Une angoisse qui touche de plus en plus de personnes, en particulier les jeunes. Et toi Claire, comment tu vas ?
Merci Pierre-Louis pour la question et je vous avouerai pas top top. Ce n'est pas très jojo, dit Doris, mais la Terre se meurt et l'humanité avec. On l'entend encore, on le sait, c'est une réalité. Je me dis que la planète nous survivra peut-être comme elle l'a fait dans son histoire, mais nous. Et le reste, les animaux, les végétaux, les non-humains, comme le dirait Philippe Descola. Rien que cette année 2021, j'étais devant les écrans et j'ai découvert ces terribles images d'incendies ravageant l'île de Bé en Grèce. Ou encore celle du méga-feu touchant le petit village de Lytton au Canada, avec un record national de chaleur, 3 jours de suite à 49,6 degrés, soit 5 degrés de plus que le précédent record, qui datait de 1937. Inimaginable. En Amérique, seuls les déserts du sud des États-Unis ont déjà connu plus chaud. Mais ils n'ont pas été les seuls cet été. Des incendies de taille inédite ont ravagé en quelques semaines plusieurs millions d'hectares de forêts sur plusieurs continents. Selon les données de la NASA, le 8 août dernier, environ 180 000 incendies ont été enregistrés au même moment sur le globe. Le précédent record date de septembre 2020, avec presque 50 000 foyers en moins. Des feux meurtriers pour la faune et les habitants, même s'il peut s'agir parfois d'incendies criminels ou allant de pair avec les périodes estivales, les incendies prennent plus d'ampleur par la sécheresse et les températures de plus en plus hautes qui y règnent, relâchant des énormes quantités de CO2 qui polluent l'atmosphère, contribuant ainsi au réchauffement climatique. Ou encore, quand on regarde ces vidéos de pluies diluviennes et d'inondations dans le nord-est des États-Unis, les autorités américaines parlent d'un événement météorologique historique. Puis en Chine, où en 3 jours au mois de juillet, il est tombé presque l'équivalent d'une année de précipitations. Et également, plus proche de nous géographiquement, la Belgique, l'Allemagne en juillet dernier. Et ce n'est pas tout, n'oublions pas cette 6e extinction de masse enclenchée. Aujourd'hui, plus de 23 000 espèces, aussi bien animales que végétales, sont menacées de disparaître. Un véritable effondrement de la biodiversité. Bref, une planète touchée de part en part, une vision d'horreur durant cette longue période à l'ère Covid-19. D'après le rapport du GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat d'août dernier, cela ne fait plus aucun doute. L'homme, par ses activités, en est la cause.
Mais du coup, Claire, dans tout ça, comment est-ce qu'on fait pour ne pas être anxieux ou anxieuse pour l'avenir écologique ?
Eh oui, car 75% des 16-25 ans jugent que celui-ci est effrayant. Pourcentage relevé par un sondage effectué en 2021 par l'Institut Kantar dans 10 pays auprès de 10 000 jeunes. Cette publication relève également que 56% d'entre eux estiment que l'humanité est condamnée. Cette inquiétude grandissante et contemporaine face à un avenir incertain porte plusieurs termes aujourd'hui. Nous pouvons entendre parler d'éco-anxiété, de dépression climatique, de solastalgie ou encore de burn-out bio. Pour la thérapeute spécialisée de la solastalgie, Charline Schmeber, interrogée au micro de France Inter, différenciait l'éco-anxiété de la solastalgie. Je la cite. « L'éco-anxiété est une détresse prospective. C'est d'imaginer l'avenir, ce qui risque d'arriver dans les années à venir, qui va générer chez l'individu tout un panel d'émotions. » Colère, tristesse, impuissance, peur. La solastalgie, quant à elle, terme inventé en 2003 par le philosophe australien de l'environnement Glenn Albrecht, est plutôt une détresse qui est rétrospective. On constate la perte d'un environnement qu'on a connu, qui a été dégradé et qu'on risque de ne pas retrouver. L'éco-anxiété est quelque chose de normal, nous dit Alice Desbiol, médecin spécialisée en santé environnementale dans son livre « L'éco-anxiété, vivre sereinement dans un monde abîmé ». Mais cela peut devenir une pathologie si elle provoque un retentissement trop important sur la vie de l'individu. Ce mal se manifeste de différentes manières, décrit l'étude du Lancet, par de la peur, de l'inquiétude, de la colère, du chagrin, du désespoir, voire de la culpabilité ou encore de la honte. Comme Mathia, 15 ans, de Clermont-Ferrand, qui confie à France 3 « Depuis ses 9 ans, après avoir vu des images de l'impact actuel du réchauffement climatique, choqué, il n'a pas pu aborder le sujet par peur jusqu'à ses 11 ans. » Ou encore Olive, 17 ans, confié à Libération, j'ai une peur très importante du monde de demain et de la situation dans laquelle on est en train de vivre climatiquement parlant.
Mais est-ce qu'on est condamné à vivre ainsi ?
Pas forcément. Parfois, une forme d'espoir peut également émerger de cette angoisse avec la perspective d'un monde meilleur. La mise en mouvement individuelle et collective pour y pallier. Greta Thunberg en est le symbole. Aujourd'hui âgée de 18 ans, elle est devenue depuis 3 ans une militante écologique suédoise. Elle est suivie par des millions de jeunes en Europe et dans le monde depuis un appel qu'elle a lancé en août 2018. Une grève de l'école pour le climat, dénonçant l'inaction des États en matière de réchauffement climatique. Après une dépression à l'âge de 11 ans, sa mobilisation lui a permis de se relever, comme elle le raconte dans l'émission d'Envoyé spécial. Malgré cet avenir incertain qui fait peur et rend anxieux, l'éco-anxiété est une réalité que certains considèrent comme le nouveau mal du siècle. Comment peut-on pleinement se projeter si l'avenir nous condamne à l'effondrement ? On pourrait se dire, et certains l'ont déjà expérimenté, qu'agir permettrait de retrouver un peu d'emprise sur son destin pour ainsi ne plus se sentir totalement impuissant et impuissante. Alors, l'action concrète, individuelle et collective comme thérapie, il n'y a peut-être que cela à faire, qu'en pensez-vous ?
Merci beaucoup, Claire, pour cette chronique environnement. J'espère qu'on te revoit très bientôt.